le concept du l'A34. Non, l'A34. Alors. Hein? Oui, c'est ça, le quatrième concile de Latran. Alors.
Là, c'est le cinquième.
Ah, où est-ce que c'est? Cinquième, vous dites?
C'est marqué la 35.
Oui, c'est ça, la 35. Alors, la 35, c'est le... Je ne sais plus maintenant. 16e, je ne sais plus. Attendez, on va... La 35, 1512, 1517. 1512, 1517. Et dans Denzinger, les textes essentiels sont en 1440, 1445. 1440-1445. L'une des premières choses, l'une des affirmations les plus fréquentes dans la bouche des parents, des catéchistes, c'est de parler du bon Dieu.
Oui. Du bon Dieu.
Parler du bon Dieu. Le catéchisme en parle au numéro 218 et suivant. Dieu est amour, Dieu est bon. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on entend par la bonté de Dieu. Donc on a fini ce gros premier chapitre sur l'existence de Dieu. Je crois en Dieu, en un seul Dieu, son nom, il est vivant, je suis celui qui suit. Nous arrivons à quelques attributs divins, dont la bonté. Eh bien, si je vous posais la question, qu'est-ce que c'est que la bonté? Peut-être que vous seriez démunis. Non, peut-être que vous seriez aussi, bien sûr. Mais...
Il y a une bonne réponse. C'est bon.
C'est bon.
Merci d'être avec nous.
Eh bien, au risque de vous décourager par la simplicité de cette démonstration, je vous dirais que ce qui est bon détermine un mouvement de l'appétit, s'attire une réaction de désir, d'amour. Ce qui est bon détermine un mouvement de l'appétit. S'attire une réaction de désir, ce qu'on appelle l'amour. Et remarquons que la beauté suscite cet acte un peu plus complexe qu'est l'admiration, la contemplation, le regard fixé, pénétrant en la réalité aimée. Mais dans l'un et l'autre cas, de la bonté ou de la beauté, on se rend compte que ce que nous appelons le rayonnement ou la diffusion de ce qui est bon, est en réalité un appel, une invitation, un attrait. Si ce qui est bon se donne, se répand, c'est simplement à la façon d'une fin qui est convoitée. Nous avons l'impression que ce qui est bon, c'est ce qui se répand. Et vous trouvez chez le père Marie-Eugène, je ne sais pas combien de centaines de fois, l'utilisation de ce mot « bonum diffusivum sui ». Oui, mais qu'est-ce que ça signifie? Si ce qui est bon se donne, se répand, c'est à la façon d'une fin qui est convoitée. On a l'impression que ce qui est bon, c'est ce qui se répand, le fruit qui nous attire à midi. Mais faisons attention. En réalité, si quelque chose qui est bon donne l'impression de s'épancher, de se donner, c'est en réalité parce qu'il attire à lui. C'est-à-dire parce qu'il représente la perfection, qui est la finalité de celui qui est attiré. Ce bon repas, dont vous sentez l'odeur à 13h, eh bien, ça représente la fin de ce qui vous attire, F-I-N. C'est pour ça que ça vous attire. Et c'est pour ça que vous dites c'est bon. Mais les deux mouvements de diffusion et d'attraction reviennent au même en réalité. On a l'impression que ça se répand. C'est vrai que l'odeur se répand, mais en réalité, c'est un mouvement d'attrait plutôt. Là, nos sens nous trompent. C'est vrai que l'odeur se répand dans une pièce, mais ma faim, mon désir plutôt, est une réalité spirituelle, et elle, c'est ce qui va me mettre en route vers la salle à manger, hein, vers le restaurant.
C'est toujours la faim, I-N. Parce que là, c'est...
Alors, là, c'est la perception de cette réalité par mes sens, mais qui est communiqué à ma volonté, qui, elle, transforme cette perception sensible en un désir, hein, mais ce désir va me mouvoir jusqu'à la salle à manger pour que ce qui est perçu à titre de bien qui se diffuse, eh bien, va devenir la fin F-I-N que je convoite. Et elle n'est plus simplement convoitée, elle sera vraiment dans mon ventre. Et ce sera réalisé, hein, elle sera comblante, cette fienne. Alors quand il s'agit de Dieu, si on dit que Dieu est bon, c'est qu'il attire à lui tous ceux qui désirent s'unir à lui. Et c'est dans cette attirance-là qu'on peut dire qu'il se diffuse, qu'il rayonne autour de lui. L'idée de rayonnement peut justement nous aider à comprendre ce mystère de double mouvement que suscite la bonté. La bonté, c'est à la fois ce qui rayonne et ce qui attire. Les deux mouvements se combinent dans ce qui est bon. Autrement dit, n'allons pas imaginer un Dieu qui, sous prétexte d'être bon, se laisse aller à s'abandonner, comme le fait quelqu'un qui, dans notre humanité, est trop bon pour ne pas rester en lui-même, parfait. Au contraire, Dieu est bon parce qu'il est parfait, parce qu'il attire à lui tout ce qui désire être parfait. Il a de quoi combler cette aspiration qu'il suscite, lui. Mais lui ne perd rien à se donner, vous voyez ? Lui ne perd rien à se donner, sinon il y aurait composition. Toute cette théologie, oui, se développe à partir de cette base de la simplicité divine. Et alors c'est cette bonté de Dieu en lui-même, cette perfection, qui va déterminer ce que nous appellerons alors la miséricorde. C'est-à-dire le fait de remédier à la misère d'autrui. Le fait de remédier à la misère d'autrui. Je sens dans mon cœur la misère d'autrui. Miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est autre chose que la bonté de Dieu. La bonté équivaut à sa perfection, ce qui attire les êtres à lui, ce qui rayonne autour de lui, la miséricorde suppose une misère à laquelle on remédie. C'est pourquoi c'est un autre aspect de la bonté de Dieu. Supposer qu'il n'y ait pas de misère à soulager dans le monde, Dieu ne resterait pas moins bon. Dieu est bon en lui-même. Il est la perfection absolue qui attire tout à lui, puisque tout désire exister de plus en plus parfaitement. Et c'est un Dieu qui rayonne autour de lui dans la création. Mais la misère ajoute autre chose à la bonté de Dieu. Alors Dieu va remédier à cette misère que nous portons en nous à la suite du péché. Notre liberté est blessée et notre liberté blessée ne peut plus se mouvoir avec aisance, promptitude, en toute sûreté vers le bien divin qui l'attire. Nous sommes attirés par Dieu, mais nous sommes freinés aussi par un certain désordre qui sont en nous depuis le péché. Alors Dieu va remédier à cette misère pour que sa créature humaine parvienne à sa fin. Remédier à l'obstacle qui empêche l'être humain de revenir à sa fin, c'est la miséricorde et c'est l'œuvre du salut. C'est le sauvetage réalisé par l'incarnation. Donc la plus grande œuvre de bonté de la part de Dieu, c'est une œuvre de miséricorde. C'est pour nous attirer plus efficacement à lui que Dieu a levé l'obstacle en nous, par miséricorde. Est-ce que vous avez une question là-dessus?
Là, Dieu s'est révélé, mais bon, lui, il n'est pas dans le temps, avant l'incarnation.
Oui, oui, oui. Par rapport à la bonté de Dieu?
Par rapport à la miséricorde.
Par rapport à la miséricorde?
Quand Dieu parle à Moïse dans le Sparmès,
oui.
C'est déjà une miséricorde.
Ah oui, oui, bien sûr. Oui. L'économie du salut est une œuvre de miséricorde, tout entière, tout entière. L'économie du salut. C'est-à-dire le déploiement de la pédagogie divine qui consiste à faire comprendre à l'homme blessé par le péché, d'abord qu'il est blessé et qu'il a besoin d'un sauvetage. Mais ce n'est pas du tout évident pour Dieu de faire comprendre à sa créature blessée qu'elle a besoin d'un sauvetage. Parce que précisément, la blessure consiste à penser qu'on est grand quand on est sans Dieu. Alors toute la pédagogie divine consistera justement à s'introduire dans l'esprit de l'homme avec beaucoup de douceur. Parce qu'un petit adolescent violent, qui est toujours en train d'être violent, c'est très difficile de persuader. Vous voyez, très doucement. Il va falloir des années et des siècles. La pédagogie de l'Ancien Testament. C'est tout le problème de la pédagogie. De la pédagogie divine. Alors, si vous le voulez, dans les minutes qui nous restent maintenant, je voudrais aborder avec vous la question de la création. Je crois en Dieu, un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur. Je vais donc directement au numéro 268 et suivant du catéchisme. Tout-Puissant, Créateur, numéro 279. Alors, la première chose que nous allons dire au sujet de la création, c'est que le dogme, l'affirmation de foi qui nous demande de croire que Dieu a créé tout, créateur de tout, semble comporter une certaine contradiction, semble contrarier la raison. Parce qu'il n'y a rien de plus contraire, de plus difficile pour nous, d'imaginer tout et puis quelque chose d'autre qui ne soit pas tout, le tout. Quand je vous dis que Dieu est le créateur de tout, essayez d'imaginer tout. Et si vous imaginez tout, vous ne pouvez pas imaginer quelque chose d'autre à côté. Si Dieu est le créateur de tout, il faut découvrir une combine par laquelle, justement, nous puissions accueillir cette révélation qu'il est créateur de tout. Alors, la combine, c'est quoi ? Quelqu'un se lance ? Les philosophes, là ? Allez-y. Alors, nous dirons, apparemment, il y a quelque chose de contraire à la raison. Dieu nous demande de croire à quelque chose qui est inimaginable. Nous ne pouvons pas imaginer qu'il y ait tout et puis quelque chose d'autre à côté. Qui serait Dieu? Alors, si Dieu est la cause de tout, en quel sens comprendre? Alors, saint Thomas, qui a évidemment merveilleusement réfléchi à ça, qui a mis au point justement tout son traité de la simplicité divine, justement pour amener ses étudiants progressivement. Parce que qu'est-ce que vous avez après le traité de Dieu, après le traité de la Trinité? Vous avez l'émanation des créatures à partir de Dieu, la création. À partir des questions 44 de la prima pars. Alors, saint Thomas dira, qu'est-ce que vous observez en tout ce qui existe? La composition. Composition c'est vous vu, hein? Composition de matière et de forme. Composition de puissance et d'acte, composition d'essence et d'existence, bon, il y a composition dans tout ce qui existe. À partir du moment où vous distinguez tout ce qui existe, mais qui est composé, vous pouvez poser une réalité qui est cause de tout et qui est non composée. Si Dieu est non composé, oui, il n'y a plus de contradiction à penser le tout et puis Dieu qui est à côté et qui ne fait pas partie du tout. Dieu n'est rien du tout. Mais utile. Hein? Si Dieu n'est pas composé, il est la source de tout ce qui est composé. Oui. Alors là, on peut recevoir. Hein? Donc, il n'y a pas de contradiction dans la révélation de la création. La foi nous dit Dieu est créateur de tout, à condition de vérifier que le mot tout concerne tout ce qui est composé. Et comme nous avons démontré que Dieu n'est pas composé, alors oui, nous pouvons affirmer une relation de causalité de Dieu au monde. Oui? Jésus? Mais on va venir, mais ben vous pouvez déjà formuler votre question, allez-y, par rapport à ça.
Jésus, il a un corps.
Prenez votre stylo, et le mien plutôt. Et faites-nous un schéma sur ce que vous pensez ou vous pensez comprendre. On parlait de Jésus.
Oui, alors, Jésus, il a un corps, tac, tac.
Il est composé.
Il est composé, du coup.
Oui.
Parce qu'il est vraiment mort.
Sa nature humaine,
oui,
est du côté des choses composées. Oui. La nature humaine de Jésus, on est d'accord.
Oui.
C'est une réalité créée.
Oui.
Oui, oui, bien sûr.
Et sa divinité est non composée.
Alors, c'est ça, cette union hypostatique, le Fils de Dieu s'est uni à cette nature humaine. C'est ce que nous avons commencé à cerner, hein, tout à l'heure. Donc, le lien de cette relation qu'on appelle l'union hypostatique, on y reviendra. Hein?
Oui.
Mais cette relation-là, elle fait exister la nature humaine, qui, elle, est dans une relation de créature. La nature humaine est créée, composée de corps et d'âme. Hein? Donc elle est créée, mais elle existe unie au Fils de Dieu. Nous sommes d'accord?
Oui.
D'accord? Mais ce que je vous disais, c'est que Dieu n'est pas pour autant, la simplicité divine n'est pas pour autant brisée. Et que Dieu qui n'est non composé, il est encore la cause de cette nature humaine. Oui? Par rapport à ce que nous disons. Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu l'Esprit Saint, les trois personnes divines sont cause de la nature humaine du Fils. Oui, c'est une créature. Une créature dans laquelle se vérifie la puissance et l'acte, etc. Enfin, nous y reviendrons en parlant de la Christologie. Nous y reviendrons. Je suis très jaloux pour ça. Alors, maintenant, comment penser cette relation de Dieu avec la créature? Je vais vous donner un exemple pour vous soutenir un peu l'imagination. Nous avons un œil qui est ouvert sur l'arbre ou le livre, un livre. Vous avez un œil qui fixe le livre. L'œil est en relation avec le livre. Est-ce qu'il y a une transformation dans le livre du fait que je le lise? Non. La relation de l'œil au livre et la relation du livre à l'œil sont deux relations différentes. La relation de l'œil au livre est une relation réelle parce que la relation réelle se caractérise par une transformation de l'œil par rapport au livre. Je lis les caractères et la rétine de mon œil, dans mon œil se réalise une transformation. Mon œil est réellement relatif au livre parce qu'il y a une transformation réelle dans mon œil. Mais dans le livre, il n'y a pas de transformation du fait que je le lise, ça transforme rien, ça change rien en lui. Donc la relation du livre à l'œil est une relation de raison, on dira. Hein? On peut isoler cette relation. On imagine cette relation, mais c'est une relation de raison. Parce qu'il n'y a pas de vraie transformation du livre à l'œil. Tandis que de l'œil au livre, oui, il y a une vraie transformation. Vous voyez? Maintenant, je vous pose la colle. De Dieu à la créature, où est la relation de raison? Alors, où est la relation de raison? Donc, de Dieu à la créature, il y a une relation de raison. Et vous voyez que spontanément, nous sommes dans l'inversion. Et la relation réelle, elle est de la créature à Dieu. Parce que le changement se fait du côté de la créature. Il n'y a pas de changement en Dieu du fait qu'il crée. C'est une relation de raison. La raison voit cette relation. On voit la relation du livre à l'œil. Mais parce que du fait que je le vois, le livre n'est nullement transformé, on dira que c'est une relation de raison simplement. La raison, elle l'affirme, mais c'est tout. Tandis que la relation réelle est de l'œil au livre, parce que vraiment là, il y a une transformation dans l'œil. L'un des deux de la relation est transformé. Alors ici, l'un des deux de la relation, ce n'est pas celui qui agit. C'est la créature qui est créée. Le changement advient ici, du côté de la créature. Nous avions commencé à cerner tout à l'heure ce mystère. La relation de création, c'est simplement faire exister. C'est-à-dire sortir du néant et en permanence faire durer cette sortie du néant. En tout ce qui existe, en toute la substance qui est créée, pas simplement les molécules, tout, tout. Pensez le tout immédiatement, constamment le tout, pour éviter justement des imaginations, des images qui vont nous entraîner dans des calculs mathématiques, mais qui nous éloignent de la simplicité de l'intuition, de la relation. Tout dans tout ce qui existe. Dieu crée tout dans tout ce qui existe, y compris l'existence. Parce que, et là, on va parvenir à des choses vertigineuses, mais tant pis, on est payé pour ça. Et je suis vraiment très gêné par cette... Je vais essayer de faire... Alors comment maintenant approfondir justement? Prenons le potier. Le potier qui tient dans sa main l'argile et qui va, par la pression de ses doigts, progressivement transformer sa glaise. Est-ce que Dieu nous tient comme ça? Est-ce que Dieu nous tient dans l'existence comme le potier tient sa glaise?
Non, parce que la glaise, elle ne peut rien faire de la volonté. Elle n'est pas passive comme la glaise est passive. Est-ce que disons qu'on n'est pas des marionnettes. Elle a de liberté.
Non, non.
Et même la liberté, elle nous vient de Dieu.
Plus loin, allons plus loin. Donc imaginons le potier qui tient son argile. Qu'est-ce qui se passe? La motte d'argile est là. C'est une motte, oui. Elle se transforme. Est-ce que Dieu nous tient comme ça dans ses mains? Est-ce que la création consiste à transformer? À accomplir.
Non, à donner l'existence.
À faire exister. Très bien. À faire exister. Parce que le potier ne fait pas exister sa motte d'argile.
Il fait exister sa pièce finale.
Et il la transforme. Il transforme l'argile. C'est la différence entre le transformisme et la création. D'accord? La création. Dans notre dogme de foi catholique, la création n'est pas un transformisme. Autrement dit, nous n'allons pas imaginer la création comme Dieu se mettant à l'ouvrage sur quelque chose qui existe déjà. Et puis qui transforme. Vous savez, la fameuse théorie de l'évolution, etc. Et même, il y a des physiciens parmi vous qui pourraient mieux nous expliquer la théorie du Big Bang, c'est vraiment très très intéressant. L'univers en expansion ou en dilatation. Bon. On pense, certains savants pensent, que l'univers actuel est en expansion, mais après avoir connu une rétention. Mais alors on peut imaginer que l'univers soit. Se rapetisse. Mais est-ce que le Big Bang, est-ce que c'est la création?
Une transformation. On parle de quelque chose qui se spécialise.
Qui va se complexifier, qui va se. Oui?
En même temps, physiquement, comme des molécules, c'est. Enfin, rien ne se perd, rien ne se.
Oui.
Ça reste vrai.
Ah oui, ça c'est fantastique. C'est un aspect aussi fantastique. Fantastique. C'est que aussi, oui, ça c'est encore un autre aspect. C'est-à-dire que partout dans l'univers, même le plus lointain, on pense, il n'y a pas de raison sérieuse de penser le contraire, que notre azote, nos molécules ici sur la Terre, notre hydrogène, enfin, les molécules, les atomes, soient les mêmes. Il y a le même matériau partout. La forme de l'azote sur Jupiter, c'est la même qu'ici. Bon, ça, c'est encore un autre aspect. Mais revenons à notre idée du potier. Tenons bien, et essayons de réfléchir. Dieu nous tient, mais pas comme un potier. Parce que le potier ne crée pas sa mode d'argile. Oui, c'est la déficience de l'analogie. Oui. Mais justement, imaginons un potier et son action. On peut mesurer, par exemple, les doigts sur les molécules d'argile qui reçoivent la pression et qui vont, par friction, se communiquer cette force et puis communiquer la forme que le potier a dans la tête. On imagine la pression des doigts sur certains millions de molécules d'argile. Mais là maintenant, il s'agit d'identifier un contact de Dieu créateur avec chacun des atomes, avec chacune des parties de chaque atome. Oui, c'est une image qu'on a écartée là tout de suite, mais que je reprends.
En même temps, on n'est pas sur un dieu grand horloger. C'est ça qui est délicat ici. Je veux dire, c'est lui qui tout contrôlait, tout.
Il fait plus que contrôler. Il crée l'ordre. Est-ce que Dieu nous fait à partir de ce que nous étions il y a 10 minutes? Comme l'argile. Supposons que le potier reprend son argile après sa pause café. Il continue de transformer son argile. Est-ce que Dieu travaille sur nous à partir de ce que nous étions? Déjà, vous pouvez répondre à cette question. Non. Si Dieu ne nous crée pas actuellement à partir de ce que nous étions il y a 10 minutes, alors il nous crée justement. Il nous crée à partir de rien.
Comment ça, il ne nous crée pas à partir de ce qu'on était il y a 10 minutes? Moi, j'aurais dû couper.
La notion de durée, de toute façon, est difficilement...
Évacuable.
Non, mais en même temps, Dieu est hors du temps. Donc
surtout que ce serait une transformation.
Mais tu dis hors du temps parce que justement, on est en train de le cerner comme acte pur. Ce que je veux dire, c'est que on a évacué le transformisme. Ce que nous disons, quand notre foi nous dit que Dieu est créateur, on évacue le transformisme. Donc Dieu ne nous crée pas à partir, c'est grossier, je force un peu pour montrer la différence qu'il y a entre la transformation et puis la création. Mais Dieu ne nous crée pas à partir de ce que nous étions il y a 10 minutes. Oui, bien sûr, il assume ce que nous étions il y a 10 minutes, il continue, il poursuit son œuvre.
Mais c'est pas de la création.
Hein?
Ce n'est pas de la création, il poursuit.
Mais justement, il y a quelque chose de particulier dans cette transformation qu'il poursuit, c'est que cette transformation, elle est l'ordre qu'elle comporte, est une création à partir de rien.
Est-ce qu'on peut pas dire qu'il fait du nouveau, toujours du nouveau ?
Comme vous voulez, vous pouvez imaginer comme vous pouvez. Vous traduisez ça comme en disant il fait tout à partir, il fait du nouveau. Mais c'est contraire à l'expérience, parce que nous sommes les mêmes.
C'est pas physique la création à partir de rien. C'est ça qui est compliqué à
comprendre. Il donne vie.
Même au début, il y a toujours deux cellules qui ont formé. Ah oui,
la procréation humaine. Nous sommes bel et bien à partir de deux cellules. Bel et bien. Mais ces deux cellules, elles existent, c'est ça le problème. Et elles existent à partir de rien. Elles n'existent pas seulement à partir du corps des deux. Vous voyez ce que j'essaie de vous faire comprendre ?
Non.
Si. Parce qu'à partir du moment où vous quittez la perspective de la transformation, vous isolez, vous commencez à isoler l'acte de la création. C'est pas, le problème de la transformation, ce n'est pas notre problème.
Quand Dieu donne vie,
ben, que Dieu donne vie, ça, qui donne vie à partir de deux corps animés, c'est déjà fantastique, c'est énorme. Mais ce que, le problème, c'est pas le problème de l'embryon. C'est pas que le problème de l'embryon soit complet à partir des deux cellules qui ont précédé. Il y a quelques heures avant, elles étaient séparées, maintenant elles sont unies. Et les cellules se multiplient, etc. Et on a là un embryon. Bon. Le problème, c'est pas qu'on a un embryon. Le problème, c'est qu'il existe. Et qu'il existe à partir de rien. Et non pas à partir de ses parents. C'est ça le problème.
Et non pas
le
pas
vrai problème.
C'est pas pareil.
Non, même pas. Oui, bien sûr, c'est ce que c'est la concession que je vous faisais tout à l'heure. Je vous la refais si vous voulez. Ça vous fait plaisir. Mais pour moi, mon problème, le problème de la création, c'est pas ça, justement. Le problème de la création n'est pas dans la transformation. Le problème du transformisme, on passe à côté de la création. Tant qu'on est dans le transformisme, on est dans la poule avant l'œuf.
Ah oui, l'œuf avant la poule. Alors,
et ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et les bioéthiciens qui réfléchissent en ce moment au destin vraiment des embryons congelés ou des pères sans, ou des enfants sans père, ça, c'est très secondaire finalement. C'est une façon d'en mettre plein la vue pour justement éviter le vrai problème. Mais le vrai problème, c'est qu'on existe. Le vrai problème, c'est qu'on est créé. C'est pas qu'on est formé plus ou moins de cellules plus ou moins connues, tant pis. Tant pis, que vous voyez. Ça, que vous soyez formé à partir de cellules plus ou moins connues, anonymes et tout ce que vous voudrez, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'exister. C'est pour ça que j'isole, là, vous voyez, le transformisme.
Est-ce que Dieu nous donne son existence ?
Non, Dieu nous donne de l'existence, Dieu nous donne existence, mais c'est évidemment, c'est son trop-plein, c'est son infinie existence qui lui permet de dispenser des petites rations d'existence. Des petites rations d'existence un peu partout, oui. D'accord. Mais nous n'avons qu'une petite part, c'est la participation, c'est le mystère de la participation. Nous avons une toute petite ration d'existence. C'est une participation à l'existence infinie de Dieu, si vous voulez. Mais revenons. Revenons quand même à mon image du potier. Et imaginons maintenant l'être humain touché par les mains divines. Mais ces mains divines qui touchent toutes les molécules et tous les atomes et la moindre partie des moindres atomes de mon corps, embryon ou vieux, qu'importe. Dieu qui pénètre par son action tout mon corps, qui touche et qui a aucune partie de moi-même dont l'action divine soit exempte. D'accord ? C'est difficile à imaginer, mais imaginons-le quand même, bon, on peut. Et maintenant, regardons la table qui est dans la même situation. Dieu tient tous ces atomes dans l'existence, fait exister. Parce que si Dieu n'était pas présent aux moindres atomes qu'il fait exister, il n'existerait pas, tout simplement. C'est ça la relation de création. Faire exister, tout simplement. À partir de rien. Et totalement, ce que est la chose et le fait d'exister. C'est ça que Dieu crée entièrement, tout. Mais la table n'a pas de quoi apercevoir cette relation. N'a pas de quoi apercevoir, pressentir cette relation. Le mot pressentir est tout à fait juste ici. Parce que le mot pressentir est fait du mot prae, sentire. Et c'est tout près, c'est tout devant moi, c'est tout là, c'est juste là, c'est juste là. Et on sent là. On sent là devant. Qu'est-ce qu'on sent là devant? Là, le bois ne voit pas, le bois ne perçoit pas cette relation de création actuelle. Mais moi, j'ai un œil. Et mon œil est... C'est quoi? C'est mon intelligence, c'est ma raison. Et la raison est un équipement merveilleux. Ne me demandez pas où elle se loge. Ne me demandez pas comment ça se fait. Il faut le demander au grand saint Augustin qui a tellement réfléchi à ça. Mais ma raison a comme un œil ouvert sur ce point de contact.
C'est très délicat parler à la liberté parce qu'il y a la partie physique, le livre, mais si on prend par exemple l'abeille, on va dire que le fait d'aller mutiler, son instinct finalement, tout ça est aussi c'est un peu la...
Créé par Dieu.
Créé par Dieu.
Actuellement.
Mais l'instinct... L'humain là aussi.
Oui.
Et du coup, c'est difficile de distinguer ce qui va relever purement de ce qui est créé.
Nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas encore là. On regarde, on considère, on essaie d'isoler, on essaie de sentir, de pressentir simplement que cette relation de causalité qui fait exister ne nous est pas tout à fait inconnaissable. C'est déjà ça. Puisqu'on en parle là maintenant, c'est ça. Hein? C'est ça qu'on pressent. Voilà, c'est tout. Ensuite, les diverses causalités horizontales vont se décliner. Les vents, les conditions extérieures, ça, plus ou moins, je le vois, plus ou moins, ça imprègne ma liberté. C'est encore un autre problème. Mais que l'être humain soit équipé pour pressentir ce point de contact de Dieu créateur avec moi, existant à partir de rien, ça je trouve ça fantastique.
On peut le dire aussi pour nos facultés, la raison.
Ah oui, exactement. Ah ben exactement. C'est ce que saint Augustin a pressenti. Quand saint Augustin dit Dieu est plus intime à moi-même que moi-même, on a l'impression d'être présent à nos pensées, n'est-ce pas? On est présent. Hein? Chacun est présent à ses propres pensées, bien entendu. Et saint Augustin va dire mais Dieu est plus intime à moi-même que je ne le suis à moi-même. Pour ça, il perçoit, il pressent cette relation. Mais c'est inimaginable. On ne peut pas l'imaginer.
Et la foi, alors,
On peut simplement l'admettre. On peut simplement dire que quand la foi va nous confirmer que Dieu nous crée actuellement, là, l'intelligence dira oh, « c'est formidable ». Et quand, surtout quand la foi nous dira que c'est un acte d'amour, là, on sera soulagé. Parce que c'est seulement quand on aura la lumière complète sur l'acte créateur et l'intention divine, Dieu est bon, Dieu crée par amour, Dieu veut associer l'homme à son bonheur, etc. Là, oui, il y aura un relâchement, il y aura une confiance. Et cette relation-là deviendra réciproque, etc. C'est le commencement d'alliance. Mais pas d'alliance possible s'il n'y a pas, chez moi, la possibilité de percevoir ce lien très profond. Une alliance ontologique, disons.
Chez tout le monde, on va dire, même les non-croyants, il y a la raison qui permet de pressentir.
Exactement.
Et quand on croit, la foi nous permet de dire, c'est Dieu. Et...
Exactement. C'est-à-dire que la révélation va apporter ce surcroît de lumière fantastique, évidemment, inimaginable. Quand Dieu prend la peine de nous dire qu'il nous crée et qu'il nous crée par amour, il nous arrache vraiment au panthéisme, au polythéisme. Il nous arrache vraiment à tout ce qui est insensé, toute espèce de recherche, de tâtonnement. Il nous donne vraiment notre vis-à-vis. Il se donne comme vis-à-vis, il se donne comme partenaire, il se donne comme ami. Surtout, il se révèle comme père, comme ami, comme... C'est fantastique, vous voyez ? Parce que ce n'est plus une relation invisible, ce n'est pas une relation aveugle, ce n'est pas le destin qui vous guide plus ou moins, etc. C'est vraiment une relation personnelle. Chaque atome est concerné, chaque être humain totalement est pris dans cette relation d'amour. Et c'est ça la grandeur du dogme de la création. On voudrait participer peut-être ?
Non, mais en fait, on avait les sentiments. Dieu va aussi créer les sentiments. Il crée tout.
Oui.
Et donc.
Il nous crée actuellement en train de créer des pensées.
Voilà.
En train d'avoir des sentiments.
Ces pensées peuvent être négatives aussi.
Oui.
Donc,
oui.
C'est là où il y a. C'est sans doute sur deux plans.
Oui.
Sur lesquels on a décidé de nous mettre en colère. Et donc ces sentiments vont être créés derrière, mais.
Voilà.
On garde cette liberté.
Voilà. C'est là que nous touchons le dogme, déjà le dogme de la providence, providence et prédestination. Ces deux dogmes, ça se touche, toutes ces questions se touchent et s'enchaînent, bien sûr. Hein? Dieu est créateur d'une causalité verticale. Et il fait exister des réalités qui, elles-mêmes sont causes dans l'ordre horizontal. La voiture que je mets en route et qui croise un animal sur la route, le sanglier, qui sort juste à ce moment-là et que j'évite, mais moi je vais dans le fossé, bon, etc. Hein? Donc, les réalités qui sont immédiatement et entièrement causées par Dieu sont aussi causes dans l'ordre horizontal. Puisque le sanglier, ensuite, quelqu'un d'autre s'arrête, le mange, et puis ça devient de la poule, etc. etc. Hein? Donc les causalités horizontales continuent d'agir. Donc Dieu crée actuellement tout cela, et tout l'enchaînement des causalités horizontales est causé également immédiatement par Dieu, sans rien, à partir de rien.
Et parfois Dieu va agir sur l'horizontale de providence.
Non. Là, oui, attention.
Il décide que le sanglier va devoir faire demi-tour parce que, je ne sais pas,
non,
là,
non, non. C'est que, non, la causalité exercée par Dieu dans ses créatures est une causalité de destination. C'est-à-dire que Dieu donne tout à sa créature, surtout la créature humaine, il fournit tout à sa créature humaine pour qu'elle parvienne à sa destination, à son but, qui est la participation au bonheur de Dieu. Seulement, ces secours que Dieu nous donne constamment, à tout instant, par le truchement de notre conscience et par la grâce, évidemment, et ce secours connaît, évidemment, rencontre, évidemment, toutes les causalités et qui s'exercent autour de moi, en moi aussi. mon passé, mon atavisme, mes déterminismes, mes blessures, mon éducation, mon milieu, etc. Mes amis. Donc, cet ensemble de causalités ne sont pas pour autant des déterminismes par rapport à ma liberté qui, elle, est toujours soutenue par Dieu dans le sens de ma destination, prédestination. La prédestination n'est pas de dire ceux-ci iront au ciel, ceux-ci iront en enfer. Non, non. Tout le monde est prédestiné au salut. Et tout le monde reçoit tous les secours nécessaires pour cela. Mais avec ma liberté, je peux dire, revenons à l'argile, comme saint Irénée l'a pressenti merveilleusement, comme si l'argile aux mains du potier pouvait dire « laisse-moi ». C'est ça le péché. À ce moment-là, oui, je sors de ma... non pas de ma destination, parce que je suis toujours destiné à la vie éternelle, mais je sors, je me soustrais au secours que Dieu me donne constamment. Mais par une causalité, en effet, horizontale. C'est moi qui décide. Vous voyez, il y a des deux causalités. Et Dieu, actuellement, maintient ma liberté en train de choisir pour lui. Il maintient aussi ma liberté en train de choisir contre lui. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça.
Mais la providence implique une intervention à un moment ou à un autre.
Là, on pénétrera en morale et on regardera comment les secours de la grâce, les secours de Dieu, les secours de la conscience sont des secours utiles et suffisants pour que l'homme se conduise dans le sens de son orientation de fond, vers sa destinée. Mais c'est vrai aussi que je peux me retourner contre ça. D'où l'extrême fragilité de cette créature monstrueuse, comme dirait Pascal, qui est à la fois corporelle et spirituelle, et qui doit décider au milieu de tant de difficultés, de tant de dangers, d'un destin, de bonheur éternel, mais alors à travers des difficultés fantastiques. Mais soutenu aussi par Dieu, constamment. Dieu veille constamment sur nous. Et là aussi, nous avons de la peine à imaginer ça. Nous imaginons le secours de Dieu comme une chiquenaude, et puis débrouille-toi. Non, c'est à tout instant. Ça ne se confond pas avec son acte créateur. C'est encore une autre action de sa part. Mais pour lui, c'est une seule et même chose. Pour lui, exister, se faire aimer, et donner la grâce, c'est une même action. Mais de l'autre côté, ça se différencie en plusieurs actions. Pas mal de choses aujourd'hui. Création. Donc non seulement quand nous disons, quand le dogme dit Dieu crée tout et que nous ajoutons au dogme à partir de rien, nous pouvons ajouter aussi au commencement.
À partir de rien, c'est nous qui l'ajoutons au dogme.
Non, 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 on l'ajoute dans la formule, on l'analyse maintenant.
Ah oui, d'accord.
Donc, et maintenant, on ajoute ce qu'ajoute le dogme, c'est-à-dire au commencement. Forcément, c'est à partir de rien. Donc, il n'y avait rien avant. Chronométrie, le temps se mesure à partir de cet acte créateur qui permet à des créatures de le mesurer, ce temps d'ailleurs. Les astres ne se posent pas toutes ces questions. Mais nous ne pouvons mesurer le temps. Mais nous ne mesurons pas le temps, encore une fois, à partir du Big Bang. Nous mesurons le temps à partir du mouvement que nous observons dans cette créature tellement étrange qui pourrait ne pas exister et qui existe et qui est nous-mêmes. To be or not to be. That is the question. C'est ça. Et là aussi, oui, on nous éclabousse par toutes sortes de réflexions physiques et physio, mais sur le temps et la durée. Mais c'est pour nous distraire vraiment du premier problème. Qu'est-ce que je fais de ma vie qui s'écoule et qui bientôt connaîtra son terme? Que je recule ce terme par des médicaments et que j'aille jusqu'à 125 ans, c'est pas le problème, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Au fond, vous voyez, les problèmes éthiques sont des problèmes, je vais dire une grossièreté, bien sûr, mais c'est un problème secondaire par rapport au problème de la création. C'est pas secondaire parce que c'est vraiment greffé immédiatement dessus. C'est greffé sur une créature intelligente, rationnelle. Mais c'est second dans le sens où, dans le dogme de la création, nous identifions les vrais et les faux problèmes.
Et par rapport à la maladie, en soi, Dieu crée tout. Mais est-ce que la maladie, c'est un dérèglement de choses créées?
Ça, de toute façon, tout ce qui est déglingué, Dieu ne crée pas le mal, mais il crée la créature atteinte par le mal qu'il n'a pas créé. La créature humaine en particulier vit ce mystère de la dégradation corporelle comme un drame. Évidemment, sans le péché originel, nous en dirons un mot la prochaine fois. Mais sans le péché originel, l'être humain se serait dégradé quand même. On ne peut pas vivre pendant 500 ans sans se... Non. Mais nous n'aurions pas vécu ça comme une dégradation. Tandis que actuellement, c'est pénible, oui. C'est comme une peine. C'est une conséquence du péché. Avec l'angoisse qui est à la clé du mystère de la mort, etc. Mais Dieu ne peut pas faire que sa créature ne soit pas comme ça maintenant. Elle est comme ça. Mais c'est dans cet état-là qu'il nous vient en aide, que sa miséricorde s'exerce et que tous les secours nécessaires nous sont donnés. Et ces secours sont plus beaux que le mal. Pèse plus lourd à nos yeux, devrait peser plus lourd à nos yeux que tous les maux de la planète, de la création. Parce qu'une seconde de grâce et un sourire de la Sainte Vierge vaut plus vraiment que toutes les misères du monde. La grâce, bon, etc. Nous dirons quelque chose là-dessus. On peut dire que Dieu existe depuis toujours simplement parce que on vient de penser la création. Depuis toujours signifie indépendamment de. Pourquoi Dieu?
On nous pose qui a fait Dieu, c'est ça?
Ah oui, c'est ça le problème. Tout ce que nous avons dit ce matin est là pour à la fois répondre à cette question et montrer l'absurdité de la question. C'est absurde de montrer, de poser la question, qui a fait Dieu? Mais quand on a fait le chemin qu'on a parcouru.
C'est une question qui nous empêche de nous poser la vraie question. Qu'est-ce que je fais de ma vie?
Mais Pourquoi Dieu existe? Ça, c'est une question. Qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Pourquoi Dieu existe? Moi, je dirais plutôt, pourquoi est-ce que l'être humain est empoigné par cette question?
Dieu, s'il est, il peut exister. Si Dieu est, point, en soi, il ne pourrait pas ne pas être. Sinon, ce serait Dieu, point.
Oui.
Il n'y a pas de sens. Je pense à la question.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est pour ça. Mais voyez, nous entrons dans cette question sur Dieu par le biais des créatures. Je vous fais observer ça, c'est très important. En Occident, Aristote, Saint Thomas ont beaucoup, beaucoup travaillé sur ce point. Le réalisme, la réflexion sur Dieu, vient de l'observation du monde. Et je vous l'ai dit, nous allons nier de Dieu les compositions que nous examinons dans le monde, que nous vérifions dans le monde. Alors si nous en venons à parler de Dieu, c'est parce que justement, nous nous posons la question de l'utilité de la distinction de Dieu et du monde. Nous nous posons la question de l'utilité de distinguer Dieu du monde, la causalité du monde. Mais encore une fois, il y a des civilisations entières qui ne se sont jamais posées cette question. Les civilisations panthéistes depuis des millénaires. Et nous, on se demande si dans le catholicisme actuellement, il y a certaines franges vraiment du catholicisme, certains prêtres, peut-être même certains évêques, qui ne voient pas vraiment le problème. La nécessité d'enseigner ça. La nécessité de garder la distinction entre Dieu et le monde. Sondez, vous verrez. Mais pour nous, ça c'est le trésor. Et l'autorité de la création, c'est ce qu'il y a de moins enseigné. Est-ce qu'il y a encore des choses essentielles à dire à ce propos? Retenez bien que la relation est réelle. Essayez de penser ça, c'est formidable de penser ça. Que la relation est réelle du monde à Dieu. Mais que de Dieu au monde, il n'y a qu'une relation de raison. Ça ne change rien à Dieu de créer. Ceci contre, par exemple, les livres du Père Varillon. L'humilité de Dieu, la souffrance de Dieu. Chez Hegel, bien entendu, le problème de la transformation de Dieu ne pose aucun problème. Mais nous ne sommes pas hegeliens. Plus nous engageons, justement, je trouve que je vais terminer là-dessus, et plus nous nous engageons dans ce mystère de la simplicité divine, plus nous pouvons comprendre Saint Jean de la Croix, nos grands mystiques, qui nous disent à pleine page, mais Dieu est incompréhensible. Dieu est incompréhensible. C'est normal, c'est la nuit de la foi. Plus tu avances, moins tu comprends. Mais quand nous disons plus tu avances, moins tu comprends, nous avons tout Saint Augustin derrière nous, tout Saint Thomas, tout Saint Jean de la Croix, tout le Père Marie-Eugène. Nous sommes en face de quelque chose qui existe. de la réalité qui existe le plus. Mais nous n'avons aucune idée. Et donc, nous baissons les bras. Nous sommes comme perdus. Nous perdons pied devant cette réalité fantastique, Dieu. Et plus nous avançons, moins ça s'arrange. Dieu est de plus en plus obscur. Pourquoi ? Parce que c'est le vrai Dieu que nous rencontrons. Ce n'est pas un Dieu qui est façonné à partir de notre compréhension des choses ou du monde, que nous mettons dans notre boîte, que nous adaptons à nos misères.
Et toutes les descriptions de Dieu, tu es un Dieu patient, lent à la colère, plein d'amour, tout ça c'est pour nous aider à... C'est des analogies du coup ?
Comme je disais tout à l'heure, c'est pour nous aider à prendre un comportement juste par rapport à lui. Ça nous dit vraiment quelque chose au sujet de Dieu. Mais surtout de sa bonté, de sa grandeur. Plus je vois combien il est miséricordieux pour moi, plus je perds pied devant sa grandeur. C'est toujours sa grandeur finalement qui est.
Et quand on dit Dieu, tu l'es punissé pour la faute, c'est pour nous aider à bien nous comporter, parce qu'en soi, on ne peut pas dire que Dieu punit.
Oui. Aussi, quand même, parce que c'est pour nous aider à comprendre que la souffrance que nous subirons à la suite de nos fautes, c'est une pure conséquence de nos fautes. C'est pas lui qui nous impose la souffrance.
Et quand tu as la négociation avec Dieu sur si je trouve 50 justes, si je trouve 40.
Oui, ça c'est. Oui.
Ceci pour dire que.
Patient. Alors, évidemment, les anthropomorphismes, nous devons évidemment les prendre pour leur part et ensuite étudier notre Bible en regardant vraiment tout ce que Dieu a déboursé pour faire comprendre à chaque étape de l'Alliance de plus en plus profondément son mystère, les exigences de son amour, de sa miséricorde. Ça commence par un grand, grand miracle, c'est formidable la sortie, la traversée de la mer Rouge, ça commence, c'est fantastique. Puis ensuite, eh bien, c'est ce calme, hein. Il y a la manne, puis il y a le désert. Quelle est la signification du désert dans notre vie, etc. Toute la pédagogie divine de l'Ancien Testament nous sert à lire notre itinéraire personnel aussi. Ça a servi réellement dans le temps à dévoiler la pédagogie divine concernant ce peuple. Et maintenant, ça sert à toute l'Église à dévoiler la pédagogie divine concernant moi, concernant mon chemin et le chemin de l'Église. Mais pas exactement de la même façon, puisque les figures ont été accomplies dans le Christ. Donc c'est tout ce rapport aussi qui sera difficile à tenir. Je ne peux pas lire Osée comme s'il n'y avait pas eu Jésus. Bon, etc. Bon, voilà. Vous n'êtes pas trop mort. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Non, mais ne soyez pas d'assis. C'est des touches. Mais qui permettent de dévoiler quelques aspects du mystère de notre foi.